18-19, le magazine.
Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rogue de la bande FM. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques. Eh bien, on va commencer, ça nous arrive un peu souvent, un peu trop souvent à notre goût ces temps-ci, mais on va commencer par dédier notre émission à deux écrivains. Deux écrivains, si on leur dédie notre émission, c'est qu'ils ont été écrire sur une autre planète de l'univers. Donc le premier, on vient juste là de l'apprendre, c'est Jean-Marie Villemot. Jean-Marie Villemot qui nous avait agréablement surpris avec un personnage étonnant de prêtre, curé, hein, c'était ça, c'était un curé à Montmorency. Il s'appelait Abel Brigand et il tombait sur quelques intrigues et quelques, on va dire, mystères chez ses paroissiens. Donc voilà,
dans la bourgeoisie de campagne.
Voilà, donc un livre s'appelle carrément Abel Brigand. D'autres, ce monstre aux yeux verts. Voilà, ces livres sont parus chez Rivage Poche, c'est-à-dire chez Rivage Noir.
Et il donc avait fait un excellent roman aussi, un thriller un peu politique, la série noire qui s'appelait L'œil mort. Et on voit très bien de qui il s'agissait. Cette mise en scène, la montée des extrémismes, c'était très très bien.
Alors, son dernier roman est paru en mai 2010, il s'appelle L'Évangile obscur, et toujours d'ailleurs chez Rivage Noir, et c'est une revisitation des évangiles, en gros sous forme d'un roman d'aventure, ou comment inventer, raconter les premières années de la vie de Jésus. C'est vrai, ça, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Donc,
sauf ceux qui ont lu Christopher Moore, bien évidemment.
Bien évidemment. Bye bye Jean-Marie, et puis bye bye aussi Jogors. Alors Jogors, ça nous a d'autant plus touchés que depuis décembre, il était prévu de parler de son dernier livre qui vient juste de paraître en France. Jogors est un Américain et ce livre était déjà sorti aux États-Unis il y a quelque temps. Et si on voulait en parler, c'est que Jogors représente un des spécialistes aux États-Unis d'un auteur dont on commémore. On n'aime pas beaucoup le mot commémoration. Enfin, si une date particulière permet de parler d'un excellent auteur et de ses écrits, on va quand même pas s'en priver. Donc, c'était un grand spécialiste et surtout un fervent admirateur de Dashiell Hammett. Alors, commémoration, comme je viens de le dire, puisque Dashiell Hammett s'éteignait le 10 janvier 1961. Il y a quelques jours, cela a donc fait 50 ans. Et deux livres sortent en ce mois de janvier. D'abord, Les écrits de Dashiell Hammett, dans la collection Omnibus, l'intégrale des nouvelles, environ 65, 9 inédites. Donc, ça s'appelle
une très courte, qui fait une demi-page.
Ah oui, la première.
La première, excellente. Voilà.
Donc, le recueil de nouvelles s'appelle Coup de feu dans la nuit. La préface est du grand spécialiste de Dashiell Hammett aux États-Unis, c'est-à-dire Richard Lehman. Préface traduite par l'indispensable Nathalie Benin, dès qu'on parle de Dashiell Hammett, puisque c'est notre grande spécialiste française. Sa recueil de nouvelles a été préparé par elle, une des nouvelles a été traduite aussi par Nathalie Benin, et la préface traduite par Nathalie Benin. Donc je parlais d'un deuxième roman, c'est un livre de Jogors qui s'appelle Spade et Archer, traduit là encore, par Nathalie Benin. Alors, comme je vous disais, d'abord, pour ceux qui aiment Dashiell Hammett, la présentation de Richard Lehman et puis celle de Nathalie Benin, c'est très, très instructif. Ça replace l'œuvre de Dashiell Hammett dans l'histoire américaine. Ça explique beaucoup, beaucoup de l'histoire du roman noir par la suite. Ça montre comment il a été un des précurseurs. et en gros, c'est indispensable. Après le roman, l'intégrale des romans qui était paru chez Quarto Gallimard, ben, je crois il y a à peu près juste un an.
À peu près environ.
Ah, avec une nouvelle traduction de Nathalie Benat et n'oublions pas Pierre Bondil. Voilà. Donc c'était un bel. Alors c'est très rigolo d'ailleurs parce que dans la bibliothèque, il y a un roman dont la couverture est très claire avec Dashiell Hammett. Et là, dans un deuxième éditeur, Omnibus, là c'est Dashiell Hammett qui ressort en rouge sur une tranche très foncée. Ça fait très bien l'un à côté de l'autre. Donc les nouvelles de Dashiell Hammett sont parues entre 1922 et 1934. Alors, ces nouvelles, au départ, alimentaires pour Dashiell Hammett, elles étaient parues dans la revue Black Mask. C'est le plus célèbre magazine des pulp qui était si en vogue aux États-Unis. Et Jacques, au fait, sais-tu pourquoi on appelait ces magazines des pulp?
Oui.
Bon. Alors, tu le dis ou je le dis?
Non, mais je te laisse le plaisir de le raconter.
Bon, alors, pulp, ça vient du mot pulpe. Et en fait, c'était pour les petits morceaux de bois, tout petits quand même, qu'on retrouvait dans le mauvais papier qui servait à l'impression de ces magazines. D'où le succès de ces magazines, non pas pour les morceaux de bois, mais parce que...
Ils étaient à bas coût.
À bas coût, c'est ça. En fait, en gros, on va quand même traduire très bon marché, c'est mieux. Et plusieurs générations d'Américains se sont délectés de ces nouvelles dans ces magazines, donc ces pulp.
Et nombre d'auteurs ont fait leur première classe là-dedans.
Oui, parce que Dashiell Hammett est un des plus connus, mais bon nombre de ceux qui ont fleuri à la série noire, puis chez d'autres éditeurs dans les années 50, se sont fait la plume, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur.
C'est que l'excellent Frédéric Braun.
Et l'excellent Frédéric Braun. Voilà, donc, encore une fois, d'un point de vue littéraire, c'est tout à fait passionnant de lire ces nouvelles. Pourquoi ? Parce que Hammett, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est le père du roman noir américain. Lire ces courts récits, je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre. On voit vraiment l'évolution de l'écriture, du personnage du Continental Hop. C'est un régal pour les amateurs de nouvelles. Qu'elle soit d'ailleurs amateur de nouvelles noires ou pas. Hein. Et c'est aussi intéressant parce que c'est donc la première fois dans des écrits aux États-Unis, je pense en France, ça n'existait pas de toute façon, que l'enquêteur est un témoin privilégié de la société dans laquelle il évolue. Témoin neutre, impartial, mais qui voit quand même la corruption, les magouilles, le jeu des puissants. On suit ainsi petit à petit le tâtonnement d'un écrivain qui est en train de créer carrément, avec quelques autres qui écrivaient dans les mêmes magazines d'ailleurs, un nouveau genre littéraire. Et ça, c'est encore plus évident, je crois, en lisant les nouvelles qu'en lisant, par exemple, le plus célèbre des romans de Dashiell Hammett, enfin tout au moins pour nous, qui est Moisson Rouge, où finalement, je viens de me rendre compte que je viens de dire une bêtise, parce que le plus célèbre, parce qu'il y a la plus célèbre adaptation cinématographique, c'est donc
Le Faucon de Malte.
Donc, 5 romans publiés, 65 nouvelles, et encore une fois, les lire dans l'ordre, c'est vraiment voir l'évolution de cet écrivain qui va petit à petit créer le tough guy, le dur à cuire, qui va créer ce genre littéraire aux États-Unis, qui va tant plaire aux écrivains et aux amateurs du genre en France, que finalement le terme de roman noir qui a été inventé par les Français repart maintenant aux États-Unis. Donc, je rappelle le titre du livre, ça s'appelle « Coup de feu dans la nuit », donc recueil de nouvelles. En gros, l'auteur de toutes ces nouvelles, Dashiell Hammett.
Les éditions Omnibus.
Voilà, la présentation et le travail a été fait par Nathalie Benat, avec une très très belle préface de Richard Lehmann. Peut-être un petit morceau de musique, Jacques ?
Un petit peu de morceau de musique, et puis ben, tu as fait un hommage à des auteurs qui sont décédés. Là, c'est en hommage aussi, mais à un musicien, un très bon chanteur de blues, de jazz, de rock, de free jazz. C'était très difficile à le classé quelque part. Il était peintre aussi. Il s'appelait Don Van Elliet. Vliet, c'était pas facile à prononcer, mais son surnom est beaucoup plus connu. C'est Captain Beefheart. Et on va écouter la première chanson de son premier disque. Ceux qui ont l'oreille fine pourront reconnaître un très très jeune guitariste de 19 ans qui faisait ses débuts. Il a quitté le groupe tout de suite après, qui était Ray Cooder.
Mais lui, il est toujours vivant, pardon.
Il est toujours vivant, oui.
Tu dis qu'il a quitté le groupe, on a peur des fois maintenant.
C'était quand même en 67. Et le morceau s'appelle Sure Snuff and Yes I Do, ou quelque chose près.
Ooh. I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, saw a light in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Voilà, donc Captain Beefheart, ça fait drôle, c'est toujours étonnant de traduire les noms comme ça, ou les paroles des chansons, ou les noms des gens. Beefheart, je pense que c'était pas son vrai nom.
Non, c'était son pseudo.
Le cœur de bœuf.
Voilà, quand il faisait de la musique.
Voilà, donc je vous parlais de ce recueil de nouvelles, Coup de feu dans la nuit chez Omnibus. C'est un recueil, en plus, 65 nouvelles pour 29 euros, c'est donné. Et vous en avez pour des heures et des heures de lecture. Deuxième hommage au romancier Dashiell Hammett, un roman paru chez Rivage Thriller, Spade et Archer, du très regretté Joe Gorse.
Alors, Gorse ?
Ah, je ne peux pas dire. J'aurais tendance à penser qu'en tant qu'Américain, on prononce plutôt Gorse, mais bon.
Ça s'écrit Gores en tous les cas.
Voilà, G-O-R-E-S. Et on a comme eu l'impression, ce vieux monsieur quand même, il n'était pas tout jeune, cet écrivain a disparu le 13 janvier, et c'était un petit peu comme s'il avait attendu que son roman paraisse en France, qui s'appelle donc Spade et Archer, traduit par Nathalie Benat, comme je l'ai dit dans la première partie. Et là, on assiste à la rencontre entre Sam Spade, génialement interprété par Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais, le film, et Archer, qui disparaît au début du film. Je ne me souviens plus d'ailleurs dans le film s'il est interprété ou si on voit simplement son cadavre, qui est au départ le collaborateur dans Le Faucon de Malte.
L'associé.
Alors comme je vous le disais, Joe Gorse est vraiment un des spécialistes et un des grands admirateurs d'Dashiell Hammett. Il nous avait déjà régalé avec Hammett, voilà le titre, tranquille, hein. Hammett, on savait à quoi on s'attendait. C'était carrément l'écrivain qui y enquêtait. Ici, c'est encore plus subtil. En trois novellas, c'est-à-dire de grosses nouvelles ou de très petits romans, ça fait à peu près 60-70 pages, Joe Gorse donc retrace la rencontre entre Miles Archer, Sam Spade.
Ceci dit, toutes les trois sont très reliées ensemble quand même.
Voilà, donc il y a un fil conducteur, il y a une même enquête toujours, enfin il y a un même meurtre. Enfin, pas meurtrier, oui, meurtrier et, comment dire, fauteur de troubles, qui va se retrouver d'histoire en histoire. Dans la première nouvelle, elle débute en 1921, Sam Spade vient de quitter l'agence de détective Continental, comme l'a fait en son temps, d'ailleurs, Dashiell Hammett, qui a commencé aussi comme détective à cette fameuse agence Continental. Et dans le début de cette nouvelle, il est déjà l'amant de la femme d'Archer. Vous en souvenez peut-être pas, mais c'est le cas dans le film.
Il va embaucher. Il faut dire qu'il était l'amant avant qu'elle soit la femme de l'Archer.
Oui, oui. Est-ce que ça va le sauver ?
Ça excuse pas, mais.
Voilà. Dans cette première nouvelle, il va embaucher celle qui sera sa secrétaire dans le Faucon de Malte, Effie Perrine. Et d'ailleurs, il y a une très jolie passage où on va voir qu'elle a fortement influencé la fameuse inscription sur la porte en verre du détective. Ça, je pense que tout le monde se souvient de cette image dans le film où on voit dans des clairs obscurs absolument géniaux de ces films en noir et blanc, les silhouettes se découper à travers la vitre en verre dépolie avec Sam Spade, Private Investigator. Enfin, c'est une image très célèbre du cinéma. Et en fait, au bout des trois histoires, Sam Spade, ça finit, il s'apprête à recevoir la sublime Miss Wanderley, qui est exactement la scène du début du Faucon de Malte. Ce livre, c'est vraiment un petit bijou.
Au cinéma, on appelle ça un préquel.
Ah bien voilà, un préquel. Alors tu pourrais
oui. C'est-à-dire que c'est le contraire d'un séquel.
D'accord.
Donc c'est l'épisode qui précède l'épisode connu.
Donc, nous allons dire que Spade et Archer est un préquel donc, du Faucon de Malte.
Tout à fait.
Faucon de Malte écrit par Dashiell Hammett et Spade and Archer écrit par Joe Gorse. Donc, comme je disais, c'est un petit bijou. Joe Gorse connaît tous deux des livres de Dashiell Hammett et de sa vie. Donc, dans les trois novellas, c'est truffé de références, de clins d'œil. Mais il ne faut pas oublier le talent de cet écrivain. Il y a trois enquêtes écrites dans le même style et aussi bien que son maître. Les mêmes types de personnages, la même écriture qu'on a appelée behavioriste, c'est-à-dire qui ne décrit vraiment que le comportement, qui ne va pas s'apesantir sur des analyses psychologiques. Il y a vraiment les actes et les comportements de chacun des personnages. On a aussi la même vision de la société corrompue et aussi de cette Amérique des années de la Prohibition, avec tous les vices qui s'y promenaient. Joe Gorse fait du Dashiell Hammett, mais tout en finesse, tout en intelligence. C'est pas une pâle copie, c'est au contraire, je trouve, le plus bel hommage qu'on pourrait rendre au créateur de Sam Spade. On va féliciter aussi Nathalie Benat, parce que elle a dû beaucoup, beaucoup travailler, comme Joe Gorse d'ailleurs, pour retrouver le style des phrases.
De l'époque.
Voilà. Donc, c'est quand même Dashiell Hammett a principalement écrit avant les années 40. Donc, il y a un style, il y a un vocabulaire qu'on retrouve chez Dashiell Hammett et qu'on retrouve chez Joe Gorse, donc Spade et Archer. Mais je vous conseille aussi vraiment Hammett, met en scène donc le détective privé sous les traits de Dashiell Hammett.
D'ailleurs, pour info, ce roman avait été adapté au cinéma par Wim Wenders. Voilà. Et ça s'appelait Hammett.
Voilà. Par contre, on n'a pas vu le film, donc on ne sait pas si c'est une bonne adaptation ou une mauvaise adaptation, mais toujours est-il que le film existe, vous pouvez toujours aller voir chez
votre loueur de DVD préféré.
Ou votre marchand de des mêmes DVD d'ailleurs. Donc je vais rappeler les trois livres qui sont consacrés à Dashiell Hammett, deux parus ce mois-ci, Coup de feu dans la nuit, recueil de nouvelles chez Omnibus, Dashiell Hammett, le gros Quarto Gallimard qui rassemble ses cinq romans. Donc je vais quand même dire les titres, parce que Moisson rouge, c'est connu, Le faucon maltais ou Le faucon de Malte au choix, c'est connu, les trois autres beaucoup moins, Sans maudit, La clé de verre et L'introuvable.
Donc, La clé de verre, dont on a aussi fait un film, qui n'est pas terrible d'ailleurs.
Tu vas finir comme notre spécialiste cinématographique de Honte Noire, si ça continue. Oui, donc, traduction pour les nouvelles de plein de traducteurs, puisque ces nouvelles ont
été
traduites.
Et la traduction d'époque, oui.
Voilà, elles ont été traduites depuis les années 50 et se sont retrouvées dans des magazines ou dans des recueils de nouvelles. Quant aux cinq romans, ils ont été retravaillés et retraduits par Pierre Bandil et Nathalie Benat. Voilà, on se retrouve dans notre deuxième partie d'émission pour quelques coups de cœur, voire quelques vraiment petits bijoux et chefs-d'œuvre. À tout de suite.